Radio Prague, les informations. Bonjour, les députés ont voté en faveur de la hausse de la TVA. Les magasins IKEA en République tchèque ont été évacués suite à la trouvaille d'un engin explosif. Et puis en sport, la lanceuse de javelot Barbora Špotáková a offert sa première médaille d'argent à la République tchèque. Le taux de TVA appliqué sur les biens et services en République tchèque passera donc de 10 à 14% à partir du 1er janvier prochain, puis à 17,5% à partir de 2013. La Chambre des députés a en effet adopté ce vendredi le projet du gouvernement. L'argent récolté grâce à cette augmentation doit permettre de financer le lancement de la réforme des retraites prévue par le gouvernement. La hausse de la TVA doit encore être approuvée cependant par le Sénat, puis signée par le président de la République avant de pouvoir être appliquée. Le montant du déficit du budget de l'État à la fin de l'année ne dépassera pas 4,6% du PIB. Malgré la hausse du déficit en août, le gouvernement entend respecter son objectif établi au moment de l'adoption du budget pour 2011. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministre des Finances, Miroslav Kalousek. À la fin du mois d'août, les finances publiques affichaient un déficit de 87,3 milliards de couronnes, soit 3,5 milliards d'euros. Pour l'ensemble de l'année, le gouvernement prévoit, rappelons-le, un déficit de 135 milliards de couronnes. Une nouvelle manifestation à laquelle ont participé environ 500 personnes s'est tenue vendredi après-midi à Varnsdorf, dans le nord de la Bohême, là où depuis quelques semaines le climat est tendu après des incidents impliquant des membres de la communauté rom. Très peu de sympathisants de l'extrême droite ont participé. Les organisateurs ont manifesté contre la criminalité des inadaptables, selon leurs termes. Les 300 policiers mobilisés ont empêché les manifestants de poursuivre leur défilé en direction des quartiers problématiques pour éviter les affrontements. Cette manifestation est la première d'une série d'autres prévues dans les jours qui viennent. Les 4 magasins IKEA existants en République tchèque ont été évacués par la police vendredi après-midi après qu'un explosif ait été trouvé à proximité du magasin situé dans le quartier de Zličín à Prague. Les 3 autres magasins évacués se trouvent à Prague, à Brno et à Ostrava. L'engin explosif trouvé à Zličín suite à l'alerte lancée par un employé a été désamorcé. Les pyrotechniciens poursuivent désormais leurs recherches. Culture, l'Orchestre Philharmonique Tchèque entame sa 116e saison vendredi soir dans la salle Dvorak du Rodolfinum à Prague avec la Faust Symphonie. L'œuvre du compositeur hongrois Franz Liszt est inspirée de la tragédie Faust de Van Goethe. Le concert est dirigé par Eliahu Inbal qui entame sa dernière saison à la tête de la Philharmonie avant d'être remplacé l'année prochaine au poste de directeur musical par Irgi Bielorlavec, actuellement directeur de l'orchestre philharmonique de la BBC à Londres. Irgi Bielorlavec est considéré comme le meilleur chef d'orchestre tchèque actuel. On passe au sport et à l'athlétisme. La lanceuse de javelot Barbora Špotáková a offert ce vendredi sa première médaille à la République tchèque au championnat du monde qui se tiennent à Taegu en Corée du Sud. Une médaille d'argent puisque la championne olympique en titre a terminé deuxième du concours malgré un lancer à 71,58 m, soit le deuxième le plus long de sa carrière après son record du monde. Barbora Špotáková a été devancée de 41 cm par la Russe Marie Abakumova, auteur elle lors de sa dernière tentative de 71,99 m, soit la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps. Rappelons qu'il y a 2 ans de cela à Berlin, Barbora Špotáková avait déjà terminé sur la deuxième marche du podium des mondiaux. On termine avec un mot de météo. Le temps reste largement ensoleillé sur l'ensemble du territoire ce samedi, jour de la fête des Bronislaves. Les températures sont en légère hausse et varient entre 21 et 27 degrés pour les maximales. Cette tendance au beau temps se maintiendra dimanche ainsi que probablement en début de semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Les Tchèques sont de plus en plus nombreux à être victimes de l'achat de médicaments contrefaits ou illégaux sur Internet. Ce phénomène a mobilisé l'Institut national pour le contrôle des médicaments qui a lancé une campagne de prévention face à ce danger. Nous en parlerons dans ce magazine d'actualité. Son invité sera ensuite le directeur du Centre tchèque de Paris, Martin Bonnard, qui participe à la rencontre des directeurs des centres tchèques à Prague. Très bonne écoute à toutes et à tous. L'Institut national pour le contrôle des médicaments met en garde les consommateurs tchèques contre l'achat de médicaments contrefaits ou illégaux sur Internet. Une campagne spéciale des médicaments dangereux, Nebezpečné léky, en tchèque, a même été lancée pour décourager toute commande sur des sites qui n'ont pas été approuvés au préalable par l'Institut. Les conséquences de l'ingestion de contrefaçons peuvent être très graves à l'étranger. Plusieurs décès ont été à déplorer. Plus de détails avec Hanna Niemeczkova.
Les Tchèques achètent sur Internet surtout des médicaments contre les troubles de l'érection, des médicaments pour maigrir ou des stéroïdes anabolisants. Mais sur la toile, on peut trouver presque tout. Des analgésiques, des antidépresseurs ou même des remèdes pour arrêter la croissance des cellules cancéreuses. Mais si vous achetez des médicaments qui sont normalement disponibles uniquement sur ordonnance en République tchèque, vous pouvez être certain qu'il s'agit des contrefaçons issues des pharmacies illégales. Stanislav Havlíček, directeur de l'Institut national pour le contrôle des médicaments, détaille les risques encourus.
To znamená, že ten padělek je tak nekvalitní, že obsahuje přímo jedovaté.
Soit il s'agit d'un médicament contrefait tellement mauvais qu'il contient en réalité des substances toxiques. Autre possibilité, ce sont des contrefaçons qui ne contiennent aucune substance particulière. Donc les consommateurs ne compromettent pas leur santé, mais en même temps, celle-ci ne s'améliore pas pour autant. Enfin, un médicament contrefait peut contenir des substances thérapeutiques, comme le médicament original, mais n'ayant pas été soumis à des tests solides, il a probablement été fabriqué dans un garage dans certains pays asiatiques.
L'Institut a retenu environ 2000 médicaments contrefaits rien que pour l'année dernière. Un prix plus bas et une disponibilité plus facile du médicament tentent les acheteurs sur Internet. Hanna Kubičková, experte en pharmacologie, énumère les dangers de l'usage des médicaments devant normalement être prescrits par ordonnance.
Za prvé to může být z důvodu nesprávného užití.
Premièrement, des risques se présentent dans le cas d'un mauvais dosage des médicaments. Deuxièmement, dans les contrefaçons, on ne peut pas garantir la quantité et la qualité de la substance thérapeutique. Cela veut dire que certains médicaments contrefaits peuvent contenir une quantité de substance plus importante que la quantité annoncée et il peut donc y avoir un risque d'overdose. Ou bien, dans le cas contraire, ce sont des contrefaçons en quantité de substances actives trop faibles ou inexistantes. Donc l'effet attendu ne se produit pas.
Autre facteur de l'achat sur Internet, les fabricants tablent surtout sur l'ignorance des consommateurs qui n'arrivent pas à discerner la contrefaçon de l'original. Stanislav Havlíček.
Velmi varuji před tím důvěřovat pouze nějakým symbolům na těch stránkách těch jednotlivých.
Je préviens d'avance, ne vous fiez pas aux symboles des sites de pharmacie virtuelle, car on peut contrefaire facilement même ces symboles graphiques. Un cas similaire s'est récemment produit au niveau de l'Union européenne. Une compagnie canadienne avait placé sur son site le logo de l'Association des pharmaciens européens. Après avoir cliqué sur le logo, un certificat fictif accordé par l'association est apparu. Donc, plutôt que de vérifier la crédibilité de la compagnie simplement en cliquant sur le logo, il vaut mieux vérifier auprès d'une autorité légale nationale. En République tchèque, c'est l'Institut national pour le contrôle des médicaments qui administre le registre des pharmacies virtuelles et les surveille.
Jestli je ta daná internetová lékárna registrována a monitorována státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Pour minimiser les risques lors d'un achat en ligne, il faut savoir qu'en République tchèque, on ne vend par correspondance que les médicaments et les suppléments médicaux normalement disponibles sans ordonnance. En plus, chaque pharmacie virtuelle doit avoir une agence réelle qui a pignon sur rue. Pour en savoir plus sur la vente des médicaments sur Internet, vous pouvez visiter le site www.nebezpečneleky.cz.
Présenter en premier lieu la création artistique tchèque contemporaine, jeune, au plus grand nombre de Français, même hors des murs de son institution. Telle est la priorité du directeur du Centre tchèque de Paris, Martin Bonnart. Venu à Prague à l'occasion de la rencontre des directeurs des centres tchèques, Martin Bonnart a expliqué au micro de Radio Prague cette stratégie, tout en se souvenant de ses débuts à la tête du Centre tchèque il y a 3 ans.
Moi, je suis arrivé en été 2008, donc juste quelques mois avant la présidence de l'Union européenne de la République tchèque. Ce qui était un événement très très important justement dans la diplomatie publique. Et je dirais que c'était assez intéressant parce que du coup j'ai dû vraiment m'occuper des grandes manifestations pour représenter la République tchèque en France. Et en fait, on a commencé avec un grand festival qui s'intitulait Après 89, puisque 2009 c'était le 20e anniversaire du fin du régime communiste. Et donc on a créé ce festival qui était sous le haut patronage de Václav Havel, le président Václav Havel. Et l'idée était de présenter une République tchèque jeune, une République tchèque moderne, démocratique et dynamique. Moi, en fait, je n'ai pas grandi en République tchèque, mais j'ai grandi en Autriche et en Allemagne. Je suis né là-bas, mes parents sont des immigrants. Donc, je crois connaître un peu cet enjeu. Ancien pays communiste, les anciens membres de l'Union européenne, la perception des anciens pays communistes, notamment la République tchèque que je connais le plus, et mon ambition reste de montrer à mes contemporains que nous sommes un pays comme tous les autres pays en Europe.
Et les moments difficiles au cours de ces trois premières années à Paris?
Il n'y a pas vraiment un moment difficile spécifique. Bien sûr, on a des difficultés budgétaires, comme tout le monde maintenant, pas seulement en République tchèque. Donc, il faut bien sûr maintenant trouver des financements à l'extérieur du budget qui est attribué par le ministère des Affaires étrangères. Donc, ça, c'est évidemment, c'est difficile, mais en même temps, ça fait partie du travail. Il faut être très, très, très créative.
Est-ce que les difficultés financières vous obligent à renoncer à certains projets? Vous aimeriez mettre en place?
On n'a pas dû renoncer à certains projets, mais on a dû d'autant plus chercher de l'argent ailleurs. Je crois que à Paris, nous sommes dans une situation privilégiée parce que après qu'on se rend compte, on se rend compte de l'importance de ce centre. Donc, même s'il y avait des coupures budgétaires pour le centre tchèque à Paris, on est toujours dans une situation où on peut plutôt bien travailler, et je suis convaincu, et ce sont les informations que j'ai jusqu'à maintenant, que ça va rester le cas. Et
au printemps dernier, on a beaucoup parlé en République tchèque du litige qui a opposé la République tchèque à la société Diagoman et de la saisie des biens dont a été menacé aussi le centre tchèque de Paris. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette affaire?
Mon regard personnel ne joue aucun rôle dans cette affaire. Cette question est gérée par notre ambassade et notre ambassadeur, Madame Marie Chatardova, et le ministère des Affaires étrangères. Le centre tchèque est ouvert, le centre tchèque fonctionne et on n'a pas des indications que ça devrait changer dans l'avenir.
C'était Martin Bonnart, le directeur du Centre tchèque de Paris, 18 rue Bonaparte. Je rappelle que les centres tchèques sont implantés dans une vingtaine de pays sur trois continents. Plus de détails sur leur programmation au www.tchèquecentre.cz. Dans la rubrique Le miroir de la société, aujourd'hui, Alena Gebertova s'arrête sur trois épisodes du passé communiste vu par la presse. Les médias nationaux n'ont évoqué que modestement le 21 août 1968, date de l'occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du traité de Varsovie, à l'occasion du 43e anniversaire de l'événement. C'est ce que constate sur son site Neviditelny PES le journaliste et écrivain Andrzej Neff. Une des récentes éditions du journal Pravo a rappelé le destin de Rudolf Slansky, créateur et victime du régime communiste, et s'est notamment interrogé sur les raisons de sa fidélité au régime dont il a fait preuve même au seuil de son exécution. Finalement, le quotidien Mladá Fronta Dnes s'est récemment penché sur certaines circonstances de la mort jamais élucidée de Jan Masaryk, fils du premier président tchécoslovaque Tomáš Garrigue Masaryk. Alena Gebertová vous en dira plus.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Andrzej Neff écrit : Le 21 août 1968 ne constitue dorénavant et définitivement qu'une des dates sinistres dans le riche ensemble de dates douloureuses dont peut se vanter notre histoire, une date qui n'intéresse pourtant guère la jeune génération.
Il trouve cela assez naturel, car si l'on n'a pas vécu un événement dramatique en tant que témoin oculaire, on n'arrive pas à s'y intéresser profondément. Dans cette logique donc, on peut s'attendre d'après lui à ce que les futures générations s'y désintéressent peu à peu totalement, un événement historique en chassant un autre.
Plus loin, il exprime l'idée que tout en plongeant le pays dans le désastre des années de la normalisation, les événements de 1968 ont eu un côté positif, bien que cet apport ne se soit manifesté que plus tard, il explique.
Avancé de date, le régime communiste pouvait compter sur le soutien de la gauche intellectuelle de l'Occident. Il ne s'agissait pas seulement de communistes, le régime étant soutenu également par un large éventail de personnes honnêtes et pleines de bonne volonté, qui étaient prêtes à croire que le communisme était à même d'offrir des solutions aux problèmes politiques et sociaux du monde, que l'Union soviétique était sur la bonne voie en dépit de certaines erreurs commises.
La brutalité arrogante de l'invasion d'août a débarrassé le monde de ses illusions. Dès lors, des gens brillants comme Pablo Picasso ou Charlie Chaplin n'ont plus pu soutenir ce régime, qui a ainsi perdu son soutien intellectuel.
Selon l'auteur de l'article, il faut se demander pourquoi la gauche intellectuelle a accordé son plus important soutien au régime communiste justement à l'époque où ses crimes, faisant des millions de victimes, étaient à leur apogée. Et d'illustrer ce constat par le cas de J.B. Shaw, qui s'était fait filmer dans un camp de concentration soviétique, enthousiasmé par l'idée de rééducation de criminels par le travail.
Après l'occupation soviétique de l'ancienne Tchécoslovaquie en août 1968, une telle approche n'était plus possible, conclut-il.
Le journal Pravo rappelle, dans une de ses récentes pages consacrées à d'intéressants chapitres de l'histoire tchèque, le sort tragique de Rudolf Slansky, ancien numéro 2 du Parti communiste tchécoslovaque, est l'une des victimes les plus illustres des procès politiques mis en scène par des conseillers soviétiques qui se sont déroulés dans le pays dans les années 1950.
Dans la partie évoquant les années d'après-guerre, le journal souligne que Rudolf Slansky, issu d'une famille juive et engagé dès sa tendre jeunesse dans le mouvement communiste, a été une des principales figures du coup d'État de février 1948 et qu'il est devenu un des proches collaborateurs du futur président Clement Gottwald, son ami et compagnon de route. Celui que l'on a pris l'habitude d'appeler le premier président ouvrier du pays. Le quotidien écrit.
Slansky défendait une ligne du parti très dure, conformément à sa conception de classe du monde, qui ne voyait que deux camps, ceux qui aspiraient à édifier un ordre juste, et de notre côté, les ennemis réels ou supposés qu'il fallait à tout prix combattre.
Comme on le sait, entre les années 1948-50, toute une série de procès politiques ont été montés contre des personnes accusées de sabotage de l'économie nationale, d'espionnage et d'autres crimes graves, bref, de haine à l'égard du régime. En ce qui concerne le rôle de Slansky dans ses procès, le quotidien Pravo souligne.
Il ne s'est pas seulement présenté comme quelqu'un qui acceptait passivement les représailles. Il est allé beaucoup plus loin. Il a été l'un des initiateurs les plus farouches de ces procès, donnant à ce sujet des instructions aux fonctionnaires subalternes. Ses fonctions lui ont permis de décider de la persécution de milliers de citoyens innocents, ainsi que du sort des accusés lors des procès. Il était membre d'organes qui avaient un pouvoir de décision lorsqu'il s'agissait de prononcer des peines capitales.
Mais bientôt, sur ordre de Moscou, les ennemis du régime et de l'Union soviétique allaient être dévoilés au sein même de la nomenclatura communiste.
Lorsque les soviets décident de mettre sur pied un grand procès antisémite et antisioniste à Prague, c'est Rudolf Slansky, à l'époque secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque, qui est choisi comme la tête du complot contre l'État avant d'être arrêté, condamné, puis exécuté. Le journal Pravo écrit.
En prison, Rudolf Slansky a longtemps résisté. Il était prêt à avouer les fautes et les erreurs, tout en refusant cependant d'accepter des aveux imposés et de s'autoproclamer l'ennemi du parti auquel il avait voué toutes ses forces et toutes ses capacités. Le seul aveu qu'il a fait, sous forte pression psychique, c'est qu'il avait porté involontairement préjudice au parti. Ne voulant pas jouer le rôle de traître, il demeurait malgré tout un communiste discipliné.
Slansky a fléchi après une tentative de suicide manquée. Brisé, il a alors avoué tout ce que les juges d'instruction demandaient de lui. À l'instar d'autres accusés, il a dû apprendre son réquisitoire par cœur, d'après le scénario préparé à l'avance par les conseillers soviétiques.
Le 27 novembre 1952, Rudolf Slansky a été condamné pour des actes qu'il n'avait pas commis et a été exécuté une semaine plus tard. Il était le seul, parmi les 11 autres condamnés, à ne pas avoir demandé de grâce au président Gottwald, le seul aussi à n'avoir pas adressé une ultime lettre à sa famille.
Face à l'histoire, le sort cruel que Slansky a connu ne le débarrasse pas pour autant de sa part de responsabilité dans les crimes du régime, constate le journal à la fin de la description de son parcours, faisant remarquer que plus d'une question qui sont liées à ce personnage demeure et demeureront probablement sans réponse. Nous citons.
Pourquoi Rudolf Slansky a finalement accepté de jouer dans ce théâtre tragique le rôle de traître? Il n'a jamais donné de réponse, nous ne disposons d'aucun témoignage. Nous ne savons pas non plus s'il se rendait compte de sa propre responsabilité dans le système qu'il avait lui-même édifié et dirigé. Nous ne savons pas quelles sont les questions qu'il s'est posées et s'il s'est senti coupable.
Jan Masaryk, chef de la diplomatie tchécoslovaque après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et aussi très brièvement au sein du cabinet Gottwald, a-t-il été assassiné ou bien s'est-il suicidé? Voilà une autre question de la récente histoire tchèque, ou plutôt tchécoslovaque, à laquelle on ne connaît toujours pas de réponse et sur laquelle s'est penché un des suppléments de cet été du quotidien Mladá Fronta Dnes.
La première enquête sur la mort de Jan Masaryk, retrouvée le matin du 10 mars 1948 en dessous de la fenêtre du palais Tchernine, siège du ministère des Affaires étrangères à Prague, a été menée par la police d'État communiste, STB. Il n'est donc guère étonnant qu'elle ait conclu à un suicide, peut-on lire dans les pages du journal, qui signale que des doutes au sujet de ce verdict ont cependant immédiatement émergé. Il évoque en outre les enquêtes menées par la suite.
Une nouvelle enquête sur la mort de Jan Masaryk, qui a eu un immense retentissement, a été menée en 1968 lors du printemps de Prague. Par ailleurs, une émission télévisée y a été alors consacrée.
L'invasion soviétique en août 1968 a coupé court à cette enquête indépendante, qui a finalement débouché sur une théorie insensée, selon laquelle Masaryk serait tombé de la fenêtre en fumant une cigarette.
Deux autres enquêtes ont été effectuées dès la chute du régime communiste en 1989, qui n'ont pourtant pas réussi à élucider l'énigme. Ceci dit, les partisans de la théorie qui veut que le fils de Tomáš Garrigue Masaryk ait été assassiné ne cessent de prévaloir. En conclusion, le journal écrit.
La réponse à l'énigme au sujet de la mort de Jan Masaryk repose dans les archives soviétiques. Tant qu'elles ne seront pas rendues accessibles, on ne connaîtra pas la vérité.
C'était le miroir de la société à la lumière de la presse, présenté par Alena Gebertova. Le programme de Radio Prague en langue française s'achève. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention.